Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Non, on n'est pas dans la chronique showbiz, même si c'est un air de jazz. Est-ce que tu reconnais ce musicien, Catherine?
Non, mais pendant une seconde, je me suis dit, coudon, c'est Omerta.
Ça ressemble à ça?
Ça ressemble à ça.
Il est bon, ça sonne bien.
MC, ouais. Oui, t'es d'accord?
Ouais. Je l'ai pas reconnu, mais je pensais que ça allait... La trompette, ça peut sonner mal. Hein?
Oui.
Ça, tu peux c'est, rapidement glisser.
Tu maîtrises pas, là.
Mais vraiment, c'est pro ce qu'on entend, là.
Oui.
Ben, il s'agit de Jean-Denis Garon, député de Mirabel pour le Bloc québécois.
Le sosie de Jean-René Dufort.
Qui s'est filmé en train de jouer de la trompette dans son bureau de la Chambre des communes. On va le rejoindre immédiatement. Monsieur le trompettiste, bonjour.
Salut, ça va bien?
Oui, vous n'êtes pas habitué à vous faire appeler comme ça, hein?
Non, c'est très rare, d'autant plus que c'est pas moi qui me suis filmé. Ça, c'est mon attaché de presse qui me voit jouer à tous les jours. Puis ça fait à peu près un mois que le vidéo, puis qui me dit on devrait mettre ça sur les réseaux sociaux, puis aujourd'hui, ben il le fait sans permission. Alors, okay. ça m'amène chez vous.
Vous vous êtes fait tirer l'oreille pendant un mois, pourquoi?
Ben c'est drôle, hein? Tantôt, j'écrivais à ma blonde un texto, puis je dis c'est drôle, hein? Je m'en vais voir Patrick Lagacé pour ma trompette, puis sa réponse, c'était t'as jamais voulu jouer devant personne, puis la première fois que tu le fais, tu te ramasses à la radio, ben je trouvais ça très drôle. Ça fait partie de mon hygiène de vie personnelle. Il y en a qui font du sport, il y en a qui font toutes sortes d'activités. Puis moi, c'est un instrument qui requiert beaucoup de discipline. On peut pas sauter de jour. C'est très musculaire. C'est un instrument qui joue à l'oreille, avec les oreilles. Fait que ça fait partie de ma discipline quotidienne. Mais souvent, je la garde pour moi. Puis Dieu sait que pendant qu'on l'apprend, ça dérange beaucoup de monde. Fait qu'à un moment donné, j'imagine qu'on oublie que ça devient beau.
Mais là, vous en jouez chaque jour à votre bureau. Bien, chaque jour où vous êtes là à Ottawa?
Ouais, je l'ai amené à Ottawa. Tu sais, moi, je jouais d'autres instruments avant, je jouais du piano, mais je suis un nouveau politicien, ça date de l'automne dernier, puis dans mon emploi précédent, moi, je suis prof d'université, ben, tu sais, t'es toujours en train de voyager, dans les conférences à gauche puis à droite, puis à un moment donné, j'ai décidé de changer. Il y a un album de jazz que je trouve qui est un des plus magnifiques au monde, puis à un moment donné, j'étais assis, puis je me suis dit, c'est Chet Baker qui joue dessus, avec un son absolument fantastique. Puis à un moment donné, je me suis dit, that's the one, je vais essayer ça, puis j'ai pas souvenir d'avoir sauté une journée.
Puis votre voisin de bureau, c'est Jacques Gourde, le conservateur, comment il trouve ça?
Jacques Gourde, je fais beaucoup de blagues avec lui, parce que, tu sais, moi j'ai une collection de sourdines, tu sais, une sourdine, ça change le son de la trompette, ça l'atténue un peu, mais, tu sais, ça le coupe pas tant que ça. Puis, bon, on l'entend dans les corridors, mais tu sais, on s'entend, on joue pas deux heures de temps. Puis, Jacques Gourde, on se fait des blagues parce que mon prédécesseur à Mirabel jouait de la guitare sèche.
OK.
Et Jacques, il est venu me dire, il dit, c'est moins pire que la guitare de l'autre d'avant. Fait que déjà, je pense qu'on a fait un pas dans la bonne direction.
Ben, c'est quand même assez fort de la trompette. Est-ce que d'autres collègues députés qui viennent cogner à votre porte pour vous demander d'arrêter?
Non, il y a des gens qui aiment ça, mais tu sais, on apprend. C'est des cuivres, hein? C'est des instruments forts. Ils font du bruit. Il existe toutes sortes de sourdines. Moi, j'ai même une sourdine électronique, hein, que tu peux mettre avec des écouteurs. Tu sais, il y a toujours la question de l'heure du jour, l'heure de la nuit. Puis, tu sais, c'est très musculaire. Hein? Ça prend des années à former les muscles pour être capable de jouer des cuivres. Et des fois, 5 minutes, ça suffit. Il faut juste toujours en faire un peu. Fait que c'est une question de jugement comme tout le reste.
Hein? Mais fait deux fois que vous me dites que c'est très musculaire de la trompette. Quel muscle travaille?
Ben, c'est tous les muscles des joues, les muscles du menton. Tu sais, les enfants apprennent ça là souvent. C'est rare les adultes qui prennent le temps d'apprendre des instruments.
Oui, c'est vrai.
Puis ça prend souvent des années juste pour être capable de faire 3, 4, 5 notes. Parce que c'est vraiment, tu buzzes avec ta bouche, hein. C'est pas comme quand tu souffles dans une flûte, hein. C'est tout le son provient du corps humain. Ça prend du temps. Puis à un moment donné, ben on en vient qu'à être capable de jouer assez fort. Puis de les je les dérange en chambre, je les dérange dans les corridors.
OK. Parlons un peu du fond des choses, tant que vous êtes là, M. Garon. Écoutez, je vous êtes économiste de formation et il y a le candidat Pierre Poilievre du Parti conservateur qui a plusieurs idées, on va dire, bien en dehors de la boîte par rapport à la finance, par rapport à l'économie, par rapport à la monnaie. Et il suggère, lui, de mettre à mal l'indépendance du gouverneur de la Banque du Canada, même de le congédier, ce qui serait, là, disons, assez atypique en politique canadienne. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là?
Bien, si vous essayez de chercher un économiste sérieux qui va vous dire qu'il faut remettre en cause l'indépendance de la Banque du Canada, bien, vous allez avoir bien de la misère. Ça n'existe pas. La politique monétaire, elle est indépendante parce que, tu sais, on cible l'inflation. On la cible à 2 %. Il faut absolument qu'elle soit indépendante du politique. C'est fondamental. Ça dit, tu sais, la Banque du Canada, c'est pas juste un électron libre. Il y a une politique qui définit le mandat de la Banque du Canada. Cette politique-là, elle est adoptée par la Chambre des communes, mais c'est une très, très mauvaise idée. Puis moi, je pense que l'inflation, elle est élevée. Il y a beaucoup de circonstances géopolitiques derrière la guerre en Ukraine, etc. On les connaît. Et il faut pas faire du populisme, induire les gens en erreur là-dessus. L'inflation, elle touche les gens au quotidien, c'est réel, c'est dans notre épicerie. Il faut qu'il y ait des mesures, t'sais. Des mesures ciblées pour être des ceux là qui en souffrent le plus. Mais de miner la confiance du public dans une des banques centrales les plus crédibles au monde, c'est hautement irresponsable.
J'ai pas vu beaucoup de spécialistes de l'économie, de la finance dire « Hey, c'est une bonne idée d'avoir des banques centrales là qui seraient inféodées aux politiques. Pourquoi M. Poilievre fait ça? C'est quoi son but politique, vous pensez?
Ben, les gens, on sort d'une pandémie. En fait, on a encore probablement les deux pieds dedans, juste dans une certaine mesure. Les gens ont souffert beaucoup. Les gens ont été pris à la maison. Puis là, c'est au moment où on enlève les masques, on sort un peu dehors, on se ramasse dans une situation où les prix augmentent de 5, 6, 7 %. Il y a une guerre qui s'ajoute à ça. Les gens, ils sont frustrés. Les gens, ils sont en colère. Les gens sont tannés de souffrir. Puis c'est vrai pour moi, pour vous, puis pour beaucoup de gens. T'sais. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas tomber en politique dans la facilité d'aller utiliser, attiser, empirer la colère des gens pour aller chercher des votes. Et je pense que c'est une très mauvaise idée. Puis moi, ma lecture des événements, bien que je ne m'ingère pas dans la course conservatrice, comme vous voyez bien, là, moi, je pense que c'est pas responsable de faire ça. Il y a des façons saines de faire de la politique. Et moi, je suis allé en politique, là, c'est tout nouveau, parce qu'on en a des idées. On a le droit d'avoir des désaccords. Mais il y a des lignes à pas franchir, puis je pense que M. Poilievre, en tout cas, il est très proche de la ligne, ou bien il l'a dépassé.
OK, parlant de lignes à ne pas franchir, là, tantôt, j'ai regardé votre fil Twitter, vous avez recadré votre collègue libéral Pablo Rodriguez, qui a dit que le Bloc est en train de se radicaliser parce que au Bloc, vous avez critiqué les députés libéraux fédéraux qui ont marché avec la communauté anglophone contre le projet de loi 96. Qu'est-ce qu'il y a de mal à exprimer son point de vue là-dessus?
Ben, c'est pas la question nécessairement d'exprimer son point de vue, là. C'est que depuis un an et demi, les libéraux là, se lèvent en chambre et se posent comme ceux qui défendent la langue française. Là, il y a un projet de loi sur la réforme des langues officielles qui est clairement une demi-mesure, là, où, par exemple, dans des entreprises comme le CN, comme Air Canada, on va leur dire, ben, écoutez, choisissez entre les deux langues officielles. Puis, pour moi, c'est une évidence que dans ces entreprises-là de compétences fédérales, le choix de ces entreprises-là, il est fait. Qu'il faut appliquer la loi 101 aux entreprises de compétences fédérales. Moi, je trouve ça incohérent d'aller dire à Ottawa qu'on défend la langue française et le lendemain d'avoir à peu près tout le caucus montréalais des libéraux dans la rue pour contester la loi 101 qui devrait être appliquée aux entreprises de compétences fédérales. C'est-à-dire, quand on est député, on représente une fonction. On est membre d'un caucus. Eux sont membres d'un gouvernement. Moi, je pense qu'il faut que ces gens-là s'élèvent au niveau de leurs fonctions, ils prennent leurs responsabilités.
Mais on peut craindre certains articles du projet de loi 96 sans être contre la loi 101 quand même.
Tu sais, nous, ce qu'on dit, c'est que, et on le dit à Ottawa, et c'est pour ça que moi, je n'irai pas prendre part à des manifestations pour les raisons que je viens de vous annoncer. Ça relève de Québec. C'est Québec qui doit légiférer en matière linguistique. Déjà que c'est compliqué à un gouvernement. On veut pas aller à un endroit où les deux gouvernements se lancent la balle là-dessus, où il y a de la chicane. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est à Québec de légiférer. C'est l'Assemblée nationale, c'est une législature saine, où il y a des débats. On s'en va par ailleurs en campagne électorale, et moi, je pense que c'est aux Québécois de décider ça.
Très intéressant. Écoutez, c'est la première fois que je vous parlais, puis c'est j'ai trouvé que vous étiez un très bon musicien.
C'est gentil.
Et vos réponses sont intéressantes.
Bon, mais on se reprendra.
Ben, on va vous réinviter, puis je viens de vous suivre sur Twitter là aussi. Là. J'espère qu'il y aura d'autres séances de trompette au Parlement.
Ben, je vais vous rendre l'appareil.
Parfait. Oui, mais je joue pas de trompette. Bonne journée.
Bye.
Jean-Denis Garon, député de Mirabel. On dit qu'il ressemble à Jean-René Dufort, hein, semble-t-il.
Oui, il l'avait interviewé à cause de ça.
Ah oui?
Parce que les gens lui disaient, quand il faisait du porte-à-porte, qu'il se ressemblait beaucoup.
Il y a même un petit peu de la voix de Jean-René, je trouve. Oui,
mais je le trouve... Ça va être terrible ce que je vais dire. Je vais le dire quand même. Je le trouve plus intéressant que tous les députés du PQ ensemble. Fait que c'est rendu hallucinant que
je pense qu'ils vont chercher un chef peut-être au mois d'octobre.
Je trouve que le Parti indépendantiste fédéral est rendu plus dynamique que le Parti indépendantiste provincial. C'est spécial quand même.
15h36.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Écoutez, on va parler... c'est une histoire absolument incroyable qui s'est déroulée en Italie. Il y a un cycliste de l'Érythrée, Binyam Girmay, qui a dû abandonner ce Tour d'Italie, qui est très célèbre dans le monde du cyclisme, le Giro, mercredi matin, au lendemain de sa victoire d'étape, la veille, parce que... pendant la cérémonie, sur le podium, ben qu'est-ce qu'il a fait? On lui a donné une bouteille, non pas de champagne, mais de Prosecco, le champagne italien, disons. Et là, il a reçu le bouchon dans l'œil et il a pas pu poursuivre la course parce que ben son œil est blessé. Là, j'ai cette histoire-là a attiré mon attention parce que Catherine et MC. Je suis jeannot prudent, OK? On va dire ça comme ça. Je suis un gars bien axé sur la sécurité. Et dans un party, je capote toujours de voir les gens enlever le petit machin de métal par-dessus le bouchon de champagne ou de mousseux ou de prosecco. Puis là, de continuer à se promener comme ça en parlant à tout le monde, en pointant la bouteille en question, parce que je le sais que ça peut éclater. Mmh. Ça m'a déjà passé à un pouce de l'œil. Moi puis aussi. Je me suis dit, écoute, c'est pas très le fun. Je connais quelqu'un qui l'a reçu entre les deux yeux, qui a failli perdre la vision. Donc, il semble-t-il que c'est un accident qui se produit pas mal plus fréquemment qu'on peut penser. Docteur Patrick Hamel est médecin ophtalmologiste, chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital Sainte-Justine. Docteur Hamel, salut!
Bonjour, M. Lagacé.
Ça arrive souvent des blessures semblables.
Ben, surprenamment, oui. C'est même sur le site web de l'Association américaine d'ophtalmologie, le traumatisme par les bouteilles de champagne, par les bouchons, est même indiqué comme un des traumatismes importants.
Donc, qu'est-ce que ça fait à l'œil quand un bouchon de bouteille de champagne ou de prosecco ou de mousseux atteint l'œil?
Ben en fait, ça fait ce que n'importe quel projectile qui arrive à très haute vélocité ferait. Et donc, c'est un traumatisme qu'on appelle contondant. Bon, heureusement, ça perfore pas l'œil, mais comme ça arrive très, très rapidement, il y a toutes sortes de choses qui peuvent survenir. T'sais, ça peut aller, par exemple, du sang à l'intérieur de l'œil ou de la partie qu'on appelle la chambre antérieure, là, ce qui était le cas de M. Girmay, là, qu'on appelle un hyphéma traumatique. Ça peut être une cataracte, le cristallin peut se déplacer, on peut avoir des problèmes au niveau de la rétine. Vous en faisiez allusion un peu tantôt, là, il y a même le nerf optique que la connexion entre l'œil et le cerveau qui peut devenir, si on veut, traumatisé, puis on peut perdre une bonne partie de vision à cause de ça aussi.
Mais ça arrive à quelle fréquence? Est-ce que vous voyez ça, là, vous, les ophtalmologistes, une fois par semaine, une fois par mois?
Non. Ben, je pense que c'est quelque chose qu'on voit peut-être. Je pense pas qu'on voit ça plus qu'une fois par année ou par deux ans chacun d'entre nous. Donc c'est pas quelque chose d'extrêmement, extrêmement fréquent non plus là.
OK. Votre meilleur conseil, c'est quoi?
Je suis ophtalmologiste plus que restaurateur, mais c'est important de. Je dirigerais le bouchon n'importe où, autre que sur moi ou sur quelqu'un d'autre. Dirigerais vers le haut où il n'y a personne.
Mais on a le réflexe de fermer les yeux quand un projectile s'en vient vers nous. Là, j'imagine que quand le bouchon est expulsé de la bouteille, là, je veux dire, c'est tellement proche, généralement, là, quand on le tient, là, si c'est une blessure auto-infligée, là, il n'y a même pas le temps de se fermer, j'imagine.
Écoutez, il peut, probablement pas, mais il est capable aussi de se fermer, mais je vous dirais qu'à ce point-ci, c'est pas la paupière qui va protéger vraiment de la vélocité de ce projectile-là.
OK. Sinon, les accidents les plus fréquents là, qui blessent les yeux, on peut penser à quoi?
Ben les sports sont très importants. Ça dépend un peu des pays, mais les sports sont très importants. Quand on parle des balles de tennis, on parle des moineaux de badminton aux États-Unis, tout ce qui est basketball, là, les doigts là, qui arrivent dans les orbites, c'est très important. Puis il y a tous les traumatismes qui peuvent survenir à la maison aussi. Là, t'sais, quand on fait des rénovations avec des clous, des vis, tout ça, pour soit des corps métalliques dans les yeux, ça peut être une autre cause assez fréquente.
Est-ce que l'œil, c'est un organe qui est résistant, même s'il a l'air fragile?
Il y a quand même, c'est surprenant qu'il y ait une bonne résistance, mais il y a deux sortes de traumatismes. Il y a des traumatismes perforants. Là, vous prenez un clou qui rentre dans l'œil, ça vient de perforer. Puis il y a des traumatismes, comme je disais, qui s'appellent contondants où ça ne perfore pas. C'est sûr que dans un traumatisme contondant, par exemple, là, il est quand même assez résistant, mais il peut avoir pas mal de dégâts à l'intérieur de l'œil quand même.
Merci d'avoir été avec nous. Très intéressant.
Ça fait plaisir, merci M. Lagacé.
C'était Dr. Patrick Hamel, médecin ophtalmologiste, chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital Sainte-Justine. Fait que gardez la main sur la bouteille, c'est un projectile. Quand ça explose, ça explose. Parlez-en à ce cycliste de l'Érythrée, Binyam Guirmé, qui a dû abandonner l'Italie. Pourquoi? Le Tour d'Italie, pardon, le Giro, parce que faisait la fête sur le podium et paf, le bouchon s'est expulsé de la bouteille et l'a frappé à l'œil. Tu parles d'un accident absurde.
Puis beaucoup de gens nous soulignent sur la messagerie que Patrick Carpentier, ça y est arrivé, en effet, à faire une course en Indy. Il avait reçu le bouchon dans l'œil, ce qui avait... Il avait été obligé. Il avait été blessé, donc il avait manqué des courses par la suite. Donc, ça me semble un vrai danger. Mais tout est dangereux. J'ai une nouvelle que j'ai mise sur mon frigidaire parce que pour prouver que tout est dangereux. C'est une nouvelle dans le Journal de Montréal il y a une dizaine d'années. Il se tue en tombant dans son lave-vaisselle.
Ben voyons.
Tu sais, quand on dit le couteau, il faut le mettre du bon bord, là, on se moquait, ça arrive jamais. C'est un gars à Vancouver, oui, il est tombé.
Puis il s'est fait harakiri sans faire exprès.
Sans faire exprès, puis il en est mort.
Wow.
Tout est dangereux.
OK. Salut Philippe Audrey.
Bonjour Patrick, ça va bien?
Oui, ben écoute, depuis que je suis en direct sur le diffuseur national Les péripéties de Charles et de la Duchesse Camilla au Canada, ça va très bien. Laisse-moi te lire un extrait d'une duchesse, d'une dépêche.
Joyeux carnaval.
D'une dépêche de la presse canadienne, on va partir là-dessus, OK? Ça donne le ton. Le prince et Camilla, duchesse de Cornouailles, ont fait de nombreux arrêts devant des monuments de la capitale canadienne au cours d'une deuxième journée. Bien rempli de leur tournée du jubilé de platine de la reine Élisabeth II, qui compte 70 ans de règne. Comment ils font pour tenir le coup là avec toutes les choses qu'ils ont à visiter dans une journée?
Ben, écoute, tu le dis, c'est des choses tellement palpitantes d'aller porter une gerbe devant la tombe du soldat inconnu, rencontrer des œuvres caritatives, après ça parler à Justin Trudeau. Je sais pas comment ils font. Je pense qu'ils vont avoir besoin de vacances, visiblement, parce qu'aujourd'hui, crois-le ou non, ils découvrent les palpitants territoires du Nord-Ouest en visitant. Là, ils se sont séparés un peu aujourd'hui. Camilla est allée dans une école avec des enfants, puis Charles est allé parler à des chefs de Première Nation pour la préservation de l'écologie, puis Camilla, elle, c'est la préservation des langues autochtones. Et donc là, tu te dis, hey, mais là, ils vont bien être lendemain de veille demain. T'as raison. Mais surtout, en fait, c'est que Charles va recevoir le titre honorifique de Ranger canadien, parce que s'il y a bien une chose qui est utile, vraiment, je savais pas que ça existait des Rangers canadiens, mais s'il y a une chose qui est utile, c'est un monsieur qui est pas capable de mettre la pâte à dents à 73 ans comme un Ranger. Et ça, je pense que c'est un moment qui nous rend tous fiers collectivement, mais hier, faut dire que le clou du spectacle, ça a été la réception en l'honneur de la reine et de son jubilé par la gouverneure générale à Rideau Hall avec des dignitaires. Et je tiens à dire que je n'étais pas invité. Et ça, je fais semblant que ça me rend pas mal à l'aise, mais et en colère, mais je vais quand même qualifier la visite royale et princière de désastre. parce qu'ils ont oublié de m'inviter au party. Mais
en même temps, t'es pas oui, au territoire du Nord-Ouest, là, tu sais, fait que on voit ça positivement.
Non.
Pas grand-chose à faire,
oui,
là-bas.
Ben...
non, ça, c'est pour, ben, non. C'est pour le party d'hier à Ottawa, MC.
Oui, mais je sais, mais là, ils sont rendus là, là.
Ben oui, je sais, mais c'est ça, ils visitent le plaisir, puis tu sais, Dieu sait que moi aussi, le plaisir et moi, on fait deux, fait qu'il me semble que j'étais parfaitement qualifié pour y aller. Mais n'empêche que y a quand même un profond malaise en ce moment par rapport à la visite, puis ça, pour en parler sérieusement, c'est le rapport de la reine aux cultures autochtones, aux Premières Nations. C'est pas vraiment abordé la notion des pensionnats, puis des torts et des drames en fait subis par la monarchie, par les Autochtones, par la couronne. Et à voir comment ils ont pris à peu près 3 siècles avant de s'excuser auprès des Acadiens, je pense que je serais pas pressé tant que ça. Mais c'est quand même, j'oserais dire que c'est une visite qui a l'effet, d'une sortie d'un best-of de Steven Seagal là, en 2022. Mm-hmm. Peut-être que ça lève pas les passions tant que ça. Et on peut pas qualifier ça donc de parfaite réussite, cette visite-là, jusqu'à présent.
Non, mais
il reste les territoires du Nord-Ouest pour se remonter, par exemple.
Hey,
mais c'est quand même un faux pas qui est assez surprenant qu'il t'ait pas invité à Ottawa, parce que t'es très certainement le Québécois le plus loyal à la couronne.
Ben, je pense que oui, puis surtout sûrement le plus jeune, parce que je regardais les gens invités, puis il y en a qui... C'est sûr qu'ils pensent que Prise 2, c'est la télé en direct, là, c'est sûr. Fait que comme ça a quand même été bon pour le PR, d'après moi, de m'inviter. Mais c'est correct, tu sais, si son Altesse m'entend, je suis capable de passer l'éponge. Mais n'empêche que je trouve que si c'était une visite qui devait asseoir le lien entre la couronne et, le peuple canadien, pour sincèrement, ils passent à côté parce que ils ont fait tout ce qu'ils ont déjà fait et ils ont rien fait de nouveau concrètement. Et ils ont rien apporté non plus dans les discussions, dans les débats. Puis là, je sais qu'on est dans une bulle québécoise qui fait en sorte qu'on a une distance peut-être double, mais n'empêche que c'est vraiment ça qui arrive. On voit quelqu'un qui essaie de se faire accepter comme quand il arrive dans une nouvelle école et je suis pas sûr qu'il passe le test.
Là,
il y a qu'on lui vole son lunch.
Il y a la duchesse de Rosemont qui a une question pour toi.
Non, mais je suis certaine que t'es énormément triste de ne pas avoir pu faire signer tes cartes, hein, parce que je sais que tu collectionnais les cartes des membres de la famille royale. Je suis sûr que t'avais envie de faire signer Camilla et Charles.
3 buts, 2 passes.
Ça doit t'attrister. Tu sais, à Monarchie Québec, t'avais quand même une pression de revenir avec les cartes signées, non?
Ben, écoute, j'ai non seulement ça, mais en plus, j'ai le portrait. Fait que moi, j'étais prêt à lui donner une photo pour sa mère qu'elle me renvoie. Mais non, effectivement, c'est pour ça que c'est très amer en ce moment là, comme sentiment. J'ai vraiment l'impression d'être passé à côté non seulement de mon destin, mais aussi à côté d'une grande rencontre qui aurait pu vraiment solidifier ma place au sein de la monarchie britannique et enfin réaliser mon rêve d'être un membre de la famille royale. Mais j'ai déjà plus de cheveux que tout le monde réuni dans cette famille-là, fait que j'ai beaucoup de choses pour moi à leur offrir, n'empêche. Mais c'est vrai que il y a pas eu de contact tant que ça avec les populations. Puis ça, ce que tu dis, Catherine, en fait, je permets d'ouvrir la porte là-dessus, c'est que ça, c'est un défaut que je trouve que, et l'importance de Diana est là, c'est que Diana donnait l'impression de traverser l'espèce de protocole pour parler concrètement à des vrais gens pour vrai.
Je sais,
mais tu sais, ils pourraient eux aussi prendre des notes d'il y a 40 ans pour faire « Ah, c'était la bonne affaire », parce que tout ce qu'on a vu depuis le début, on dirait que c'est des gens là sélectionnés, puis là, tu sais, fallait pas qu'il y ait une couture qui dépasse. Puis c'est ça un peu, je trouve, que un des échecs de ce voyage-là, c'est justement d'avoir fait en sorte que on a vraiment l'impression d'avoir acheté une pièce qui ne coûtera pas 300 $ mais des milliers de dollars MC, fait que ça peut te rassurer avec les 7 tranches de la rivière Ottawa.
Bon, en terminant, parce que tu dois nous quitter dans une minute, quand le prince Charles va se rapporter à Buckingham Palace, quelle sorte de rapport il va faire à sa mère, la reine, sur son voyage, sur son périple de 3 jours au Canada, tu penses?
Ben, écoute, les lieux parlent d'eux-mêmes. Terre-Neuve, Ottawa, territoire du Nord-Ouest. Ça m'étonnerait qu'ils disent que ça dérape au Canada. Fait que déjà, ça va la rassurer.
C'est tranquille.
Puis probablement qu'ils vont dire que c'est bien parfait. Tout le monde parle anglais, tout le monde est content, puis il n'y a pas de problème. Mais n'empêche que je sais pas ce qu'il va lui dire, parce que j'ai l'impression que il a pas bien fait son travail d'émissaire royal. Fait qu'il va sûrement lui dire que tout a bien été, mais si sa mère lit les journaux, elle va voir qu'on n'a pas parlé de son fils Et elle va tirer ses propres conclusions, je pense.
Ben, peut-être qu'elle va décider de le... Elle peut pas le déshériter, hein, je pense.
Non.
Ça marche pas de même.
Si les médias, si la couronne britannique suit les médias, ils vont nécessairement m'entendre. Alors, je veux juste dire, vous auriez dû m'inviter au party. Ça, c'est un message direct à la reine.
Le message est fait. Merci, camarade.
Ça fait plaisir.
Et God bless the Queen.
Exactement.
Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, notre correspondant aux affaires monarchiques. C'était aujourd'hui la dernière journée du périple canadien du prince Charles et de la duchesse de Cornouailles. Saviez-vous ça qu'en anglais, Cornouailles, c'est Cornwall?
Ah!
Ouais. Oh, oui.
Je viens de catcher.
C'est moi, juste prononcé d'une manière différente.
Exactement.
Moi,
donc,
la seule référence que j'avais, c'était le poulet de Cornouailles.
Ouais. Fait à partir de maintenant, quand on parlera de Cornwall, Ontario, je vais parler, allons à Cornouailles.
Comme Maguire et Maguire à Québec.
Voilà.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
La reporter de guerre Anne Niva revient tout juste d'Ukraine. Elle a été envoyée là-bas par le magazine Le Point et on la rejoint immédiatement à Paris. Anne Niva, salut.
Oui, bonjour.
Anne, je vous cite, vous dites mon seul but, c'est de revenir avec des histoires à partager. Quelles sont les histoires qui vous ont le plus marqué en Ukraine dans ce dernier mois?
L'essentiel, c'est qu'un conflit, ça n'est pas simple. Une guerre à couvrir, on croit que voilà, c'est peut-être facile entre guillemets parce qu'il y a les bons, les méchants, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Ben non, c'est pas comme ça. J'ai couvert beaucoup de guerres dans ma vie, en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak. À chaque fois, c'est la même chose. Et là, ça a recommencé avec l'Ukraine. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, je me suis rendu compte très vite qu'il fallait justement essayer de raconter, d'illustrer et d'incarner cette guerre avec des personnages qui la racontent et qui racontent sa complexité, finalement.
Qu'est-ce qui n'est pas simple?
Ben, ce qui n'est pas simple, c'est d'aller derrière la propagande, tout simplement. Quand on a une guerre, on a une propagande de part et d'autre des belligérants. Alors, elle est plus ou moins professionnelle. Hein. Quand j'étais en Irak, il y avait évidemment... la propagande ou la communication, hein, qui est l'autre mot pour propagande, la communication des armées alliées menées par les États-Unis. Mais en fait, on n'avait pas une armée régulière. On avait des terroristes comme Daesh, Al-Qaïda, etc., mais qui eux aussi produisent de leur propagande, en tout cas qui essayent de le faire. En Tchétchénie, c'était pareil. Il y avait l'armée russe avec sa propagande, les indépendantistes tchétchènes avec la leur. Et là, en Ukraine, eh bien, on a... En revanche, la situation est un peu différente parce qu'on a deux armées régulières, l'une en face de l'autre. Alors que d'habitude, moi, j'ai plutôt... Ce sont des guerres, les grandes guerres du début du XXIe siècle et de la fin du XXe, ce sont des guerres asymétriques avec une armée régulière ou plusieurs armées régulières additionnées et en face, des armées non régulières. Eh bien là, ce n'est pas le cas en Ukraine. On a deux armées régulières, deux armées classiques, l'armée russe et l'armée ukrainienne. Eh bien... Chacune des deux armées, bien sûr, relayée par les politiques, produit une propagande, une communication, et je dirais presque c'est de bonne guerre, mais c'est de bonne guerre aussi que ce soit nous, les journalistes du terrain, qui allions sur place pour essayer de voir ce qu'il y a derrière, pour ne pas se contenter de ce qu'on essaie de nous faire ingurgiter, disons. C'est à ça que ça sert le terrain.
On connaît bien la propagande russe. Expliquez aux gens qui nous écoutent de quelle forme la propagande ukrainienne prend.
Mais la propagande ukrainienne, c'est le symétrique de la propagande russe, c'est-à-dire de mentir ou de ne pas dire totalement la vérité ou clairement sur le nombre de morts, bien sûr, de morts surtout militaires ukrainiens. On n'a jamais des chiffres qui sont des chiffres clairs, jamais. Mais la France serait en guerre, elle ferait la même chose. Le Canada serait en guerre, il ferait la même chose. C'est, c'est comme ça que ça se passe. Donc on n'a pas ça, on n'a pas le nombre exact de blindés qui sont perdus par l'armée. On a uniquement la bonne parole, si vous voulez, militaire, qui dit ce qu'elle a envie de dire pour que justement l'armée ukrainienne soit encore plus et toujours régulièrement aidée par les politiques et les militaires occidentaux. Et de facto, c'est ce qui se passe, puisque une des raisons pour lesquelles l'armée ukrainienne, qui se défend très bien et qui montre justement beaucoup de souplesse et beaucoup d'originalité par rapport à l'armée russe, une des raisons pour lesquelles elle arrive à faire des contre-offensives, notamment récemment à Kharkiv et sur le front sud, c'est qu'elle est aidée en armement par des États occidentaux. Et finalement, on peut se demander quand même si le grand gagnant de tout ça, ça n'est pas les États-Unis, qui justement font la guerre par procuration, c'est-à-dire sans y être physiquement. Et moi, ça, je l'ai beaucoup ressenti en étant sur le terrain, c'est-à-dire que ceux qui trinquent, ceux qui souffrent, eh bien, ce sont les civils ukrainiens. Ils souffrent, bien sûr, à cause de l'invasion par l'armée russe, mais ils souffrent aussi parce que la guerre continue et parce que personne ne sait jusqu'où elle va aller, quand est-ce qu'elle va s'arrêter, et qu'il n'y a plus de vie normale en Ukraine aujourd'hui, et personne ne sait pour combien de temps, alors que quand même énormément de civils ukrainiens que j'ai rencontrés souhaiteraient que la guerre s'arrête. Personne n'a envie qu'une guerre continue, mis à part peut-être quand même souvent des militaires.
Oui. Anniva, en terminant, vous racontez les histoires que vous avez colligées là en Ukraine au public français. Vous nous les racontez ici et on vous en remercie. Est-ce que vous avez peur que s'installe dans les imaginaires occidentaux là une sorte de lassitude par rapport à l'Ukraine?
Ah oui, j'ai très peur, bien sûr. J'ai très peur parce que je connais bien comment fonctionne le système médiatique. Il s'emballe très rapidement. Il a besoin de beaucoup d'informations dès le départ, et on l'a vu dès le 24 février avec cette guerre. Et il y avait des milliers de journalistes du monde entier accrédités en Ukraine. Et peu à peu, évidemment, on se remet, je vois en France, à parler d'autres choses. Bon, là, bien évidemment, pendant que j'étais en Ukraine, on a parlé, bien sûr, du second tour des élections présidentielles, de la réélection d'Emmanuel Macron. Maintenant, on parle du nouveau gouvernement, qui va être celui d'Elisabeth Borne, etc., etc. Donc, il y a moins de place pour l'Ukraine, d'autant plus, justement, que la guerre s'installe pour être longue et que, médiatiquement parlant, c'est toujours plus intéressant pour les médias quand il se passe des choses avec beaucoup de changements, très dramatiques, et ça n'est pas le cas en ce moment en Ukraine. Donc, il est fort probable qu'il y ait de plus, il y a la canicule en France, l'été arrivant, etc., qu'il y ait une espèce de lassitude par rapport à cette guerre. Ce que j'ai vu personnellement et ce dont j'ai souffert, mais j'y suis habituée en tant que journaliste, ce que j'ai vu dans le cas de la guerre en Tchétchénie, que j'ai vu dans le cas de la guerre des Américains en Irak, le cas de l'Afghanistan, même quand les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, ça a été moins couvert médiatiquement que quand il y avait la présence militaire américaine en Afghanistan. D'abord, d'ailleurs, Patrick, une chose que je veux vous dire simplement de par mon expérience, c'est que quand il n'y a pas de militaires américains sur un territoire où il y a une guerre, eh bien les médias s'en vont. C'est très simple. L'équation est très simple.
Merci de ce compte-rendu, Anniva. C'est toujours un plaisir de vous parler.
Merci à vous. Merci,
au revoir. Okay, histoire épouvantable au nord de Val-d'Or, c'était dans le Journal de Montréal ce matin, d'un père de famille qui a une fermette et sur la fermette, ben il y a un taureau et le taureau l'a encorné. Il est maintenant gravement blessé. Repose entre la vie et la mort, selon le texte du Journal de Montréal de ce matin. Monsieur s'appelle Nicolas Chalifou. Valérie Roberge et sa conjointe. Madame Roberge, bonjour.
Bonjour.
D'abord, comment va Nicolas?
Il est dans un état critique, mais stable pour l'instant. On peut toujours pas garantir que sa vie est hors de danger. On prévoit plusieurs semaines même avant de pouvoir le dire.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il est allé comme à tous les jours pour nourrir les animaux. Il est rentré dans la grange, le taureau était au champ. Puis quand il est ressorti, le taureau l'attendait sur le bord de la grange. Il lui a donné un coup de tête qui l'a propulsé au sol. Et un coup au sol, il l'a encorné dans l'abdomen, ce qui a créé plusieurs dommages à ses organes internes.
Encorné, là, pour être clair, c'est que ben il l'a frappé avec ses cornes, puis c'est un peu comme recevoir un coup d'objet pointu comme un couteau, là.
Oui, ben en fait, la corne a perforé l'abdomen.
OK. Écoutez, je peux pas imaginer ce à travers quoi vous passez présentement. Là, est-ce qu'il arrive à parler?
Pas encore. Il est maintenu entubé pour l'instant pour l'aider dans le fond avec un respirateur.
OK. Là, écoutez, c'est pas dans notre habitude là, de relayer des GoFundMe, des campagnes de sociofinancement parce que elles sont toutes aussi bonnes, aussi valables une que les autres. Mais vous en avez lancé une, je le souligne, la famille Chalifou sur GoFundMe. Ça va vous aider à faire quoi d'amasser des fonds comme ça?
Bien, premièrement, nous, comme vous savez, l'Abitibi, c'est pas la porte à côté. Mmh. Présentement, il est hospitalisé à Montréal pour quelques semaines. Donc, évidemment, je veux être à son chevet le plus possible, ce qui n'est pas évident parce qu'on a deux enfants puis j'ai un commerce aussi à m'occuper. Fait que je fais beaucoup de voyagements. Je me retrouve du jour au lendemain, Nicolas, il était mécanicien soudeur au niveau des mines et des moulins. Là, lui, il n'y avait pas d'assurance en tant que tel. Fait que je me retrouve avec toutes les dettes et les paiements à couvrir, le voyagement, probablement certains soins qui vont nécessiter beaucoup de transport aussi. C'est le but, là.
Est-ce que vous êtes débarrassé du taureau, Mme Roberge?
Absolument.
C'est une histoire épouvantable. Bonne chance pour la suite. Nos meilleures pensées accompagnent votre conjoint Nicolas, là, qui était à Sacré-Cœur. Bonne chance. Merci.
Merci beaucoup.
C'était Valérie Roberge, conjointe de Nicolas Chalifou, un accident atypique, inusité, encorné par son taureau. Vous avez entendu Mme Roberge, donc Nicolas Chalifou maintenant est entre la vie et la mort à Sacré-Cœur. Hein? Pourquoi Sacré-Cœur? Peut-être que vous vous demandez, là, c'est le meilleur centre de traumatologie au Québec. Donc, il a été héliporté de l'Abitibi jusqu'à Cartierville.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.